Vous allez écouter l'émission de Vous à nous en direct, réalisée par les stagiaires de l'espace ressources et insertion de l'Université populaire du Ventoux.
L'UP Ventoux est un organisme d'accompagnement à l'emploi, à la formation et à l'éducation et à l'environnement.
Bonjour et bienvenue sur RTVFM pour aujourd'hui une émission spéciale avec les stagiaires de l'UP Ventoux, une émission qui sera destinée aux traditions culinaires à Mardi Gras et on parlera effectivement gastronomie et territoire. Et pour en parler, je suis accompagné de Josie, ma co-animatrice. Bonjour Josie.
Oui, bonjour Alain, bonjour à tout le monde.
Alors Josie, aujourd'hui pour les stagiaires de l'UP Ventoux, nous avons pas mal de monde, beaucoup de stagiaires pour cette émission spéciale. Nous avons Salima, Sandra, Gladys, Laurent, Jennifer et Valérie. Bonjour à toutes et toutes.
Bonjour.
Merci d'être présent, mais du moins c'est nous qui sommes présents, on peut le dire, à l'UP Ventoux, puisqu'on est reçu aujourd'hui, Josie, dans les locaux de l'UP Ventoux pour réaliser cette émission. Alors, nous avons comme invité pour cette émission spéciale, Madame Carayol Karine, qui est guide conférencière à la COV, Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Vénissin. Madame Carayol, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir et de prendre de votre temps justement aujourd'hui pour nous parler des traditions culinaires, de la gastronomie et du territoire.
Ce sera avec plaisir.
Voilà, alors merci déjà d'accepter de répondre aux différentes questions des stagiaires. Et nous avons une toute première question, je crois que c'est Salima qui va vous la poser.
Alors oui, la gastronomie est-elle toujours liée au terroir ?
Alors oui, effectivement, le type de terroir va configurer, si on remonte encore dans l'histoire, l'installation des communautés humaines. C'est d'abord une question vitale, on a besoin d'avoir accès à l'eau. Et dès le néolithique, les hommes vont quitter les points hauts pour cultiver dans les plaines et élever. Et nous, ici, dans notre territoire, dans le département du Vaucluse, on a vraiment des traces de cela dans la durée de l'histoire. Et donc, ce territoire, il a été lentement préparé au cours des millions d'années par la géologie. Et il faut penser qu'on a été longtemps sous l'eau ici. Cette eau va laisser des sols riches, des alluvions et la présence de l'eau en sous-sol. Et ce qui fait que dès le XIVe siècle, les papes ont appelé notre région les jardins de nos délices. Et puis plus tard, avec l'arrivée du canal de Carpentras au XIXe siècle, les jardins de la France. Et effectivement, on a un autre auteur qui nous donne une citation assez magnifique. Il dit « La Provence est un avant-paradis, c'est Paul à Rennes ». Hein, voilà. Donc on a toute cette présence du terroir, du climat, qui va faire qu'on aura des produits particuliers.
Alors ces produits particuliers, on va en parler longuement parce qu'il y a quand même une très longue liste de produits particuliers. Et je crois que je ne sais pas si c'est Gladys qui devait poser une question justement. Rapproche-toi beaucoup plus du micro, Gladys, concernant justement les plats et les mets que l'on peut avoir sur le département.
Oui, pourriez-vous nous citer quelques mets spéciaux de la région ?
Alors, il y a un plat qui est très typique, évidemment, c'est la ratatouille. On n'en a pas forcément développé tout à l'heure, mais la ratatouille va faire intervenir un grand nombre de légumes et va faire intervenir également une économie de moyens. Je m'explique parce que c'est très actuel en ce moment. On est en train de rééduquer les personnes à ne pas gaspiller. Et donc, autrefois, les légumes n'étaient pas, enfin, on n'avait pas de frigo, on ne s'est pas conservé dans le long terme. Donc, on accommode le plus possible. Et la ratatouille parle de notre région, puisqu'on va mettre de l'aubergine, de la tomate. Voilà, les jardins de la France sont dans la ratatouille, j'allais dire.
Alors, l'importance de la saisonnalité pour les produits, je pense, ça a un impact. Toutes les saisons, les produits ne sont pas les mêmes, les consommations ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pourriez nous le développer un petit peu ?
Oui, donc on va, quand on observe un petit peu dans les plats traditionnels de la région, on va voir qu'en fonction de la saison, donc au printemps, en été, en automne et en hiver, il y a une intelligence aussi des femmes ou des ménagères qui vont préparer certains plats parce qu'ils sont pratiques. Donc, par exemple, on va préparer des ragoûts parce qu'on est dans une période de haute activité au niveau agricole. On n'aura pas le temps de cuisiner quand les hommes vont rentrer. Donc, c'est quelque chose qu'on va laisser mijoter assez longtemps. À la saison des moissons, les hommes restent dans les champs et donc ils vont emporter une omelette qu'ils peuvent consommer plutôt bien cuite, justement, parce qu'ils la gardent avec eux toute la journée. Il y a la padello également avant, qui était un plat avec des pommes de terre. Et donc voilà, on s'adapte vraiment à la saison et on consomme des produits de saison. Donc ça aussi, on est en train de se rééduquer là-dessus à consommer des produits locaux et de saison. Donc vous voyez, on est dans une thématique très, très actuelle.
José.
Oui, je vois qu'il y a 420 mets spécifiques justement ici dans la région, dans la Provence. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Alors, au niveau des plats, on va avoir des plats qui sont des plats de viande, hein, on l'a vu, et on va avoir également des plats de poisson, puisqu'on a les deux façades, hein, la façade méditerranéenne, hein, on aura la rouille, hein, donc les tondeurs qui allaient se déplacer journalièrement en Camargue, eh bien, ils aimaient bien emporter un petit pot de rouille fabriqué avec de la sèche, hein, et des olives noires, hein, qui donnaient du goût. On aura également le plat d'aïoli, hein, qui fait intervenir du cabillaud et puis beaucoup de légumes et 8 gousses d'ail, donc c'est très relevé. Et on aura tous les plats à base de petits ovins, hein, donc qui étaient élevés dans les collines en restant qu'aux alentours, donc des plats d'agneau, hein, une viande saine aussi intéressante et qui est tout à fait d'actualité puisqu'on est près des fêtes de Pâques, enfin on entame le chemin vers Pâques là.
Alors justement, on parle de tradition. Moi, j'avais une question à poser à Valérie ou à Jennifer. Est-ce que les traditions dans votre famille, est-ce que c'est quelque chose qui perdure ? Est-ce que vous avez connu des traditions ou est-ce que ça continue ? Valérie peut-être ou Jennifer, une des deux, hein, vous pouvez répondre à votre tour. Valérie.
Oui, je trouve que les traditions, c'est un peu perdu pour moi. Et après, moi, j'ai ma mère qui cuisinait beaucoup, qui faisait beaucoup de plats typiques d'ici. Et que moi, je ne fais pas du tout.
Alors, pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a plus de grands repas de famille ?
C'est
parce
ça,
que les
oui.
occasions sont beaucoup plus rares ? Les familles sont un petit peu éclatées, peut-être ?
C'est ça. Oui, oui, oui. Tout à fait.
Et pour Jennifer, qui est juste à côté, est-ce qu'elle a un point de vue là-dessus ? Est-ce que les traditions dans la famille, c'est quelque chose qui perdure ? Ou justement, pour les mêmes raisons que Valérie, c'est un petit peu plus compliqué ?
Moi, j'ai une grande famille. Alors oui, ma grand-mère cuisinait beaucoup. Plein de plats, de ragoûts, de choses comme ça pour toute la famille. Et puis, par contre, ma mère un peu, mais moi, pas du tout, mes sœurs non plus. On a la facilité aujourd'hui d'avoir plein de choses. Alors du coup, on va à Leclerc, on achète des choses, mais on va pas vraiment faire nous-mêmes moins, quoi, d'ailleurs.
Alors, Karine, est-ce que c'est justement le constat un petit peu, justement, ces traditions, ça se perd, mais on retrouve quand même dans certaines familles, au moins aux périodes peut-être de Noël, on en parlera parce qu'on va faire un petit peu toutes les saisons, il y a quand même une partie des traditions qui perdurent quand même.
Oui, alors je dirais même qu'on y revient. Bon, la France est quand même un pays connu pour sa gastronomie. Et ici, en Provence, cette agriculture maraîchère, elle a fortement configuré les sociétés, les mentalités et continue, hein, quand même de rayonner. Et donc ce goût pour les bons produits, on peut parler par exemple de la cerise, hein, des monts de Vaucluse, avec donc cette appellation protégée autour de Venasque. Les plus belles cerises sont encore expédiées à Paris, hein, chez les plus grands confiseurs, etc. Donc il y a toujours ce maintien en fait et ce goût pour les beaux produits. Et aussi, je pense que ça se voit dans l'intérêt. Bon, alors c'est au niveau médiatisation, mais de toutes les émissions qui sont proposées sur la cuisine, mais avec souvent un éclairage qui est intéressant, justement du savoir-faire et comment on peut tirer le meilleur des produits de saison. Ça, je crois que c'est un éclairage qui revient de plus en plus, et ne pas gaspiller également. Et sur le partage, je voulais rebondir par rapport à votre intervention. C'est vraiment quelque chose qui, bon, c'est vrai qui est peut-être un petit peu atténué aujourd'hui, mais c'était vraiment la particularité des communautés villageoises ou citadines, mais surtout villageoises. Et par exemple, au temps du décoconnage, hein, donc c'était l'été, les femmes se rassemblaient et sur une grande bâche, on décoconnait donc les vers à soie, les cocons de soie, excusez-moi, et donc on partageait un goûter. Voilà, donc nous, le goûter, c'est plutôt pour les enfants, mais autrefois, bon, les travailleurs qui fournissaient des efforts également, eh bien, donc les dames consommaient du lait caillé, du miel et des confitures, des cerises et des amandes, donc des produits très locaux, un petit peu de clairette, hein, et puis, pourquoi pas, des griottes à l'eau de vie. Voilà. Hein, donc,
Alors, vous avez parlé du décoconnage, du verre à soie. Est-ce que c'était un complément, justement, de culture, un complément justement financier de revenus pour les agriculteurs, cette partie du verre à soie?
Oui, tout à fait. Alors, c'est cette culture du verre à soie, elle remonte au 15e siècle environ. Hein, ce sont les Italiens, encore une fois, qui sont venus s'installer, des maîtres veloutiers. Et l'arbre dont se régale le verre à soie, hein, qui mange les feuilles du mûrier, a été introduit, lui, par les Sarrasins dans notre terre de Provence. Vous voyez, ça remonte à très loin. Et donc, tout autour d'Avignon, on va vraiment avoir beaucoup on va avoir des indienneurs, des veloutiers, donc dans la rue des Teinturiers, Avignon, que l'on connaît tous. Et dans les campagnes, ben, effectivement, les paysans, les gens aussi des villages pouvaient compter sur ça, hein, ils élevaient les verres à soie dans leur grenier. Et si la récolte avait été mauvaise, bah, c'était un revenu qui n'était pas négligeable.
Tout à fait, merci. Josie, puis après Gladys, éventuellement, qui a peut-être une question aussi à vous poser. Josie.
Oui, je voulais savoir, moi, avant l'arrivée des Italiens, on ne connaissait pas les verres à soie et les mûriers à Carpentras ou en Provence?
Non, alors c'est le verre à soie, ça vient de la Chine. Hein, alors là, c'est très 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 ancien. Les empereurs se sont rendus compte de l'intérêt, hein, évidemment, de la soie. Nous, on le voit souvent pour les habits, mais eux, en fait, ils s'en servaient également pour tendre l'arrière de leurs livres. Hein, ils faisaient des livres en bambou, et en fait, l'arrière était recouvert de velours. Hein, donc voilà, c'est aussi le bel objet. Et comme on en a parlé également, on peut tendre le mobilier également de cette matière-là.
Merci.
Avec plaisir.
Gladys.
Moi, par contre, j'aurais aimé savoir ce qu'était le rôle du bouvier.
Alors, le bouvier, dans la communauté villageoise, est un personnage important. C'est lui qui va emmener le troupeau en pâture, hein, qui va amener le troupeau dans les collines. Donc, chaque communauté emploie un bouvier et chaque communauté dispose d'un troupeau. Donc, par exemple, à Venasque, on a encore une place du bouvier. Et c'est une richesse vraiment pour la communauté villageoise, les troupeaux fournissant la laine, mais également le lait, la viande et l'engrais. Et cet engrais va servir pour les cultures. Donc, vous voyez, on a une boucle qui est bouclée. Rien ne se perd. Ça, on a vraiment aussi à se le réapproprier aujourd'hui.
Alors, on a tendance à penser, quand on pense agriculture, on pense campagne. Mais est-ce qu'au niveau de la ruralité, est-ce que les habitants des villes aussi avaient possibilité de cultiver, d'avoir des clapiers, d'avoir des animaux? Comment ça se passe? Parce qu'actuellement, on ne trouve plus, de clapiers, je pense, dans les rues de Carpentras. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était le cas?
Oui, alors il faut s'imaginer effectivement que les rues n'étaient pas aussi dégagées et propres que ce que l'on connaît maintenant, puisque on pouvait également avoir de la magnanerie. Et donc on parlait des vers à soie et puis les animaux. Donc on pouvait, par exemple, le cochon, hein, était élevé par les familles et puis arrivant le mois de janvier, ben voilà, on faisait tous les produits à base de cochon ou autre. Hein, ça faisait vivre les familles pendant un certain temps. Et donc les rues étaient marquées d'inscriptions. En fait, on en a encore la trace à Carpentras. Rue prohibée. Hein, parce que c'était des rues qui étaient pleines de fumier, et c'était des rues très très sales. Hein, donc voilà. Et c'est intéressant votre question parce que en fait, plus on avance et plus justement on remet dans les villes des endroits verts, l'élevage des abeilles, l'élevage de petits jardins partagés. Donc vous voyez, l'histoire, c'est un recommencement perpétuel.
Alors justement, on parle en gros, c'est les jardins familiaux qu'on retrouve maintenant, puisque on en trouve dans toutes les grandes villes, dont Carpentras. Et Sandra, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime cultiver, jardinage, fleurs? Est-ce que déjà quelque chose où tu cultives des aromates pour la cuisine?
Honnêtement, non.
Non. Non. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime faire de la cuisine de temps en temps, des bons plats quand tu reçois des amis?
Oui, tout à fait.
Donc tu aimes cuisiner?
Oui.
Alors viande, légumes, qu'est-ce que tu préfères cuisiner?
Un peu de tout, mais je suis plus à l'aise avec la viande.
Tu es plus à l'aise avec la viande, donc tu es quelqu'un qui aime bien la...
Oui, tout, ce qui tout à fait. Et des gratins aussi.
Et est-ce que tu respectes la saisonnalité? Parce que souvent, c'est vrai, on parle de tous ces fruits et légumes, on a tendance maintenant à les trouver un petit peu sur les étals à n'importe quel moment de l'année. Est-ce que tu fais un petit peu comme les anciens, comme nos parents? Est-ce que tu respectes un peu cette saisonnalité où tu vas acheter du melon, je dirais, au mois de décembre?
Non, je fais comme j'en ai envie.
Comme tu en as envie, mais tu respectes quand même la saisonnalité ou non?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Donc toi, si le fruit te fait envie, tu vas l'acheter.
Si je le trouve, oui.
Si tu le trouves, d'accord. Oui. Et est-ce que, peut-être une question à Salima, est-ce que tu fonctionnes pareil, Salima, ou est-ce que tu as tendance, toi, à respecter les saisonnalités?
Non, pareil que ma collègue.
Donc voilà, si tu as quelque chose qui te fait envie, si tu vois des fraises, même si elles viennent du Chili, mais qui te font envie, tu vas acheter des fraises parce que tu as envie de faire plaisir autour de toi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais après le goût aussi, ça n'a rien à voir, quoi.
Et ça, c'est le côté parce pour faire plaisir à ton entourage, dire, et te faire plaisir à toi aussi. Je te dis, voilà,
c'est ça. D'accord. C'est ça.
Est-ce que, peut-être Sandra, est-ce que tu pratiques de la même... Pas Sandra, pardon. Gladys, est-ce que toi aussi, tu pratiques de la même manière? Est-ce que tu aimes faire la cuisine, déjà?
Alors oui, je cuisine beaucoup, mais non, je ne respecte pas les saisons, en général. C'est, c'est selon ce que je vois dans les magasins.
Dans les magasins. Et tu cuisines viande, légumes, pareil, un peu tous les plats?
Beaucoup plus de poissons.
Beaucoup plus de poissons. Donc, tu es quelqu'un qui aime cuisiner le poisson. Ouais. Alors, c'est vrai, le poisson, mais justement, tu mettais un petit peu la perche. Karine Carayol, le poisson fait partie aussi... on parle beaucoup de la viande depuis tout à l'heure. On parle beaucoup de l'agneau, on parle beaucoup du lapin, parce que ça se cultive. C'est vrai que pour nous, le poisson, Provence, c'est quand même un petit peu plus loin. C'est Marseille ou le bord de mer. Mais est-ce que quand même, dans notre secteur départemental, dans le département de Vaucluse, est-ce que le poisson se trouvait au menu et à quel moment et à quelle saison?
Alors on pouvait avoir recours aux poissons. Donc dès le Moyen-Âge, donc on sait qu'il y avait consommation de hareng, par exemple, le hareng qui était salé et qui permettait de pas avoir des périodes de famine, de limiter un petit peu la famine. Donc on a dans la ville d'Avignon une rue qui s'appelle aujourd'hui rue Saint-Agricole, mais qui était la rue Haranguerie. Parce qu'il y avait un marchand de hareng à un moment donné de l'histoire. Et donc, c'est lié également avec le sel, les salines qui sont sur le bord de Méditerranée à partir du XIIe siècle. Donc voilà, on va conserver le poisson en le salant. Et on aura la morue également qui vient dans ces tables traditionnelles à certains moments de l'année. Les anchois également, les anchois frits. Donc on va accommoder avec du vinaigre, rouler dans la farine et faire frire. Et qu'on consommait avec une tranche de pain frais.
Les aromates sont aussi très présents dans la culture et dans la cuisine, provençale. Est-ce que tous ces aromates arrivent de l'Asie? De quel pays? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire un petit peu sur tous ces aromates? Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire le romarin, c'est la Provence, le thym, c'est la Provence, le laurier aussi, mais est-ce que c'est le cas? Je crois que le laurier, ce n'est pas le cas, par contre.
C'est l'Asie. Le laurier, voilà, ça a été implanté plus tardivement, oui. Mais c'est quand même une plante du bassin méditerranéen. Donc les Romains faisaient des couronnes de laurier, donc c'est quand même pas très éloigné de notre territoire.
Notre territoire.
Je saurais pas vous dire à quelle période le laurier.
Mais c'est très présent dans la culture, dans la,
oui,
la cuisine provençale.
Oui, pour rehausser.
Oui. Oui. Est-ce que justement, Valérie, est-ce que tu cuisines beaucoup est-ce que tu mets pas mal d'aromates dans ta cuisine?
Oui, ça dépend le plat que je fais. Oui, je m'en sers pas mal. Oui.
Qu'est-ce que tu en priorité? Quel est l'aromate que tu affectionnes le plus? Le romarin, le thym, le laurier. Est-ce que le laurier?
Le thym. Le thym, oui.
Et le laurier, est-ce que tu l'utilises quand tu fais des volailles, par exemple? Est-ce que tu utilises le laurier, l'ail, beaucoup aussi?
Ben ça, oui, selon, par exemple, l'ail et tout ça, selon les soupes que je fais aussi.
Oui.
Voilà. Pour la viande aussi, ça dépend. Quand je fais, par exemple, une daube ou quoi, des fois, oui, je m'en sers pas mal.
Merci Valérie. L'ail est très présent aussi dans la cuisine provençale. Alors, je ne sais pas si certaines ou certaines ne sont pas du sud ou de la Provence, si vous êtes tous du secteur. Donc vous utilisez tous l'ail, Laurent, par exemple, parce que dans la cuisine, si tu cuisines, est-ce que tu utilises pas mal
l'ail? Ouais, c'est probablement l'aromate que j'utilise le plus.
L'huile d'olive avec, c'est un complément.
L'huile d'olive aussi, oui.
L'huile d'olive. Et je vois qu'il y a aussi également Sandra qui fait signe de la tête. L'ail, tu utilises pas mal l'ail?
Oui, l'ail, l'oignon et l'huile d'olive, beaucoup sont des éléments très présents chez moi. Des ingrédients, autant pour moi.
Des ingrédients.
Sans oublier que les aromates ont aussi des propriétés médicinales. Comme l'ail, par exemple, est un antiseptique. Après, je ne connais pas toutes les vertus des autres. Si vous en avez, vous, on vous écoute. Non ? Personne ?
Oui, le romarin et le thym aident aussi à décongestionner les bronches.
Vous me tendez également la perche sur l'hygiène à cette époque-là, au niveau alimentaire. Est-ce que les plats, les mets, il y avait toujours quand même, c'était toujours en rapport quand même avec une certaine hygiène, une façon de consommer, une alimentation qui devait être quand même, qui était déjà, je pense qu'ils réfléchissaient à la consommation de viande, d'équilibrer les repas. Voilà. Est-ce que les repas, justement, étaient faits de sorte qu'ils soient équilibrés pour avoir une meilleure hygiène de vie? Est-ce que c'était réfléchi ou pas à cette époque-là?
Alors là, je saurais pas. Enfin, je pense pas que c'était pensé comme ça.
Ouais.
C'est plutôt, par exemple, la viande en quantité dans les plats, elle était en moindre quantité que nous. Donc c'est l'intérêt de tous ces ragoûts, etc. C'est qu'on va mettre beaucoup de pommes de terre, beaucoup de légumes et un petit peu de viande. Nous, aujourd'hui, on a tendance à placer un gros morceau de viande et des légumes plus en décoration. Enfin, voilà. Donc, je ne pense pas que c'était au côté hygiène de vie.
C'était plus un côté
économique. Et qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir la viande fraîche comme nous. Aujourd'hui, on en a parlé. On va au supermarché, on va au producteur, on achète. Là, on fait... peut-être si on a tué un animal, on va faire avec ce qui est disponible. Et donc, les quantités, on va faire attention. Puis les familles sont nombreuses. Donc, on a une économie toujours de moyens. Je pense que c'est plus ça que le côté hygiène de vie, que nous avons beaucoup plus aujourd'hui. Quoi,
alors, nous sommes au mois de mars, Mardi Gras. On parle beaucoup de Mardi Gras. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette tradition de Mardi Gras?
Alors, le Mardi Gras, en fait, va venir précéder l'entrée en carême. Hein, donc l'entrée en carême, ça vient de quadragésima en latin, donc c'est les 40 jours de chemin avant Pâques. Et donc la veille, il y a un jour où on peut encore faire jour gras, hein, donc on va pouvoir consommer des œufs, de la viande, et peut-être faire un petit peu d'excès. Mais il y a encore là un souci, et j'ai trouvé ça intéressant, d'économie, c'est-à-dire qu'on va chercher à accommoder tous les restes que l'on a et qui pourront plus être mangé pendant le carême. Et donc les œufs, typiquement, on va pouvoir faire les oreillettes, hein, donc frites, et même les petits morceaux de pâte qui resteront, on va également les utiliser, les faire cuire dans une poêle, à la différence des oreillettes qui sont dans un bain d'huile directement. Donc voilà, il y a toujours y a la tradition, mais il y avait un souci aussi de ne pas gaspiller. Et je trouve que c'est un beau message à réentendre sans arrêt aujourd'hui pour nous.
Oui, je pense que Géraldine voulait poser une question. Elle va se rapprocher du micro, Géraldine.
Oui, moi, j'ai juste une petite question par rapport au nom oreillette. Je ne sais pas si on peut me répondre parce qu'en fait, en ce qui concerne les oreillettes, c'est peut-être un plat provençal. Mais moi, je viens d'une région du sud de l'Italie. En tout cas, mes parents sont originaires du sud de l'Italie. Et il y a aussi une espèce d'oreillette qui est faite au moment du carnaval. Et en fait, ça s'appelle... Alors, je pense que c'est le terme dialectal. Hein, ça s'appelle les chiacchere. Et les chiacchere, dans le dialecte de mes parents, ça veut dire le bavardage. Donc, entre oreillette et bavardage. Et les histoires aussi. Hein, quelqu'un qui fait des chiacchere, c'est quelqu'un qui fait des histoires aussi. Donc, je me demandais s'il n'y avait pas un lien. Parce que quand on compare la recette, c'est vraiment la même chose, quoi. Voilà.
Alors, je n'ai pas de réponse, malheureusement, sur ça. Il faudra que je cherche. C'est vrai qu'on a un petit peu la même pâte qui est utilisée pour les bugnes. Hein, donc là, on sera du côté de Lyon. Oreillette, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la forme je ne saurais pas dire. En tout cas, le carnaval qui va débuter dans cette période, c'est la période effectivement des excès, alors du bruit, les gens sont masqués pour se livrer à des choses auxquelles ils ne se livraient pas dans un autre temps de l'année. Et voilà, donc c'est peut-être intéressant, la question est intéressante, il faut regarder.
Alors c'est vrai que vous parlez, c'est un exutoire en fin de compte, le carnaval,
oui.
Pour la fameuse journée dans l'année où on peut un petit peu se libérer. Mais est-ce que la gastronomie, justement, n'est pas aussi un moment de, on parlait de convivialité, parce que le travail à l'époque était quand même relativement dur, les travaux des champs, c'était quelque chose de très pénible. Est-ce que le fait justement de se retrouver autour d'un bon plat, les femmes qui faisaient la cuisine, qui papotaient, puisque tout à l'heure Géraldine nous parlait de parler, c'est un peu le but aussi de s'exprimer, de parler, et après de se réunir toute la famille après une semaine au champ vraiment pénible.
Alors tout à fait. Donc on a par exemple un plat bien bien typique, la gardiane de taureau, qui était le plat que l'on va concevoir pour remercier les fournisseurs, remercier les amis qui sont venus vous aider dans les travaux agricoles. Donc voilà, on va partager ce repas, temps de convivialité et finalement le repas comme une offrande aussi, hein, comme un merci, une gratitude. Donc c'est très très beau. Très aussi. Beau.
Sandra avait une question à vous poser. On va se rapprocher du micro, Sandra.
Oui, alors au niveau des traditions, pourriez-vous nous parler de la table calendale, sa composition ?
Oui. Alors ce temps particulier, donc c'est le temps de Noël, hein, et particulièrement la veillée de Noël. Donc sur la table calendale, on va traditionnellement avoir 13 desserts. Donc 13, ça n'a pas été choisi comme ça par hasard, mais c'était pour symboliser le Christ et ses 12 apôtres. Donc on va retrouver des produits de la région, évidemment, notamment les fruits. On va garder les plus belles grappes de raisin, hein, donc à la fin des vendanges, que l'on va accrocher en hauteur pour qu'ils ne périssent pas. On va essayer de conserver aussi quelques melons sur des clés. Donc ça, c'est pour les fruits encore frais. Ensuite, on aura beaucoup de fruits secs, hein, donc tout ce qui est noisettes, amandes, figues. Et avec ces fruits secs, on va concevoir le mendiant. Hein, donc le mendiant est lié également à une tradition. Donc quand les ordres prêcheurs, certains venaient d'Italie, sont venus dans les villes pour évangéliser, hein, au cœur des villes, ils n'avaient rien sur eux. Hein, donc ils partaient comme ça sans provision. Et donc ils avaient quelques fruits secs dans leur poche. Et les fruits secs sont intéressants pour leur apport énergétique. Et donc on a conçu le mendiant. Sur cette table, il pourra y avoir la pompe à huile également. Hein, qui est assez nourrissante. Et puis, on aura également des dates et on aura sur cette table calendale 7 plats maigres également. Hein. Donc, il y a les 13 desserts, pardon, ça on mémorise, mais il y avait également 7 plats maigres. Hein. Voilà.
Karine de Carayol, vous êtes donc conférencière à la COV. Comment est-ce que l'on peut vous retrouver ? Est-ce qu'on s'inscrit ? Est-ce qu'il y a des dates que vous pouvez nous annoncer sur éventuellement votre présence en tant que conférencière ?
Alors, il faut se retourner vers le service culture et patrimoine de la COV. Hein, donc, pour les interventions, notamment, on intervient pour les journées du patrimoine. On va intervenir pour les journées de l'archéologie. Et puis également auprès de l'Office de tourisme, pour lesquels nous conduisons, mes collègues et moi, des visites dans le cœur de ville historique de Carpentras et dans les villages, donc aux alentours, qui témoigne d'une richesse patrimoniale extraordinaire.
Extraordinaire. Donc on se rapproche du site de la COV. On peut citer aussi l'ouvrage, un des ouvrages sur lequel vous faites référence dans vos conférences, si vous le permettez. C'est l'ouvrage Patrimoine gourmand d'Avignon, Histoire des recettes de Christian Etienne et Daniel Morel aux éditions Barthélémy. Bel ouvrage, entre autres. Après, vous avez plusieurs ouvrages. Il y en a d'autres, je pense, que vous faites référence.
Oui, notamment celui qui a permis de travailler sur la saisonnalité des plats, qui est intéressant. Et donc, je vais vous donner les coordonnées.
D'accord. En tout cas, merci. Alors, je ne sais pas, plus d'autres questions. Non, je vois tout le monde. En tout cas, merci parce que la conférence était très, très intéressante que nous avons suivie donc juste avant cette émission radio. Merci de vous être prêté au jeu avec les stagiaires de cette petite demi-heure pour nous informer justement sur toutes ces traditions et notre terroir. On a parlé effectivement de Mardi Gras, de gastronomie. Merci. Cette émission est réécoutable en podcast sur le www.rtvfm.net. Merci à Salima, merci à Sandra, merci à Gladys, merci à Laurent, merci à Jennifer, à Valérie, bien sûr à Josie, à notre technicien Florian et à Géraldine Strollo qui est venue justement poser aussi les questions, qui est venue se rajouter. Merci aussi Géraldine de nous accueillir, à Lupin Ventoux et surtout merci à Madame Karine Carayol qui est guide conférencière à la COV.
Et peut-être pour terminer, encore un petit dicton
oui,
que j'ai trouvé intéressant, qui était notre introduction. Si tous les gourmands ne sont pas intelligents, par contre, les intelligents sont toujours gourmands.
On terminera sur ce dicton. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir.